Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la glorieuse histoire du Conseil National de la Résistance, le fameux CNR. Ou comment un groupe d'hommes a rédigé clandestinement, en pleine occupation allemande, une série de grandes mesures politiques et sociales qui constituent les bases de notre modèle dit social, ainsi construit par des hommes aussi courageux qu'intelligents, des hommes qui ont préparé la paix tout en faisant la guerre. L'œuvre du CNR, c'est d'abord un texte, court, 2870 mots, avec deux parties distinctes pour une action en deux temps. Un plan d'action immédiat pour organiser la riposte, suivi d'un ensemble de mesures à appliquer dès la libération. Pour l'écrire, une vingtaine de résistants, affublés de surnoms pittoresques, se réunissent en secret dès le mois de mai 1943. Ils ont, pour la plupart, entre 25 et 40 ans. Pendant plusieurs mois, ils débattent en secret, malgré leurs différences politiques, et accouchent de quelques feuillets limpides et d'un titre lumineux, « Les jours heureux ». Jamais peut-être la notion d'État-providence n'a autant fait sens. Sécurité sociale, création d'EDF, nationalisation et surtout système de retraite, aujourd'hui encore en pleine actualité de façon récurrente au fil des jours, des semaines et des mois, depuis que les gouvernements successifs tentent de le réformer, ce système de retraite. Mais pourquoi est-ce si difficile? Nous en parlerons avec notre invité, précisément aujourd'hui, Antoine Bosio, professeur et chercheur en économie, auteur avec Thomas Piketty du livre intitulé « Pour un nouveau système de retraite » aux éditions ENS Redulm. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Les Français parlent aux Français.
Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. Andromaque se parfume à la lavande. Nous répétons, Andromaque se parfume à la lavande. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates.
Ce jeudi 27 mai 1943, pendant qu'Andromaque se parfume à la lavande, il y a un peu plus d'activité que d'habitude à l'entrée de l'immeuble de 48 rue du Four, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. À intervalles réguliers, plusieurs petits groupes d'hommes poussent discrètement la lourde porte. Chapeau mou, imperméable, des monsieur tout le monde. Dehors, la milice et la Gestapo font régner la terreur et arrêtent par grappes entières ceux qui osent se dresser contre l'État collaborationniste de Vichy. En tout, ils sont 19 responsables de la résistance et des partis politiques à prendre place dans l'appartement du premier étage. Autour de la table du petit salon se trouve Jean Moulin, qu'on ne présente plus, accompagné de deux collaborateurs fidèles, Pierre Meunier, dit Morlaix, et Robert Chambérou, dit Champion. Jacques de Bubridel, qu'on appelle Argonne, est présent également ce jour-là. Plus tard, en août 1976, il rappelle la liste des participants dans l'émission Chronique du Temps de l'Ombre sur Antenne 2.
C'est la réunion de la rue du Four où nous nous retrouvons. C'était présidé par Marx, justement. Il y avait là le Trocker pour le Parti Socialiste, Rucard pour les radicaux, Laniel, Simon représentait l'OCM parce que Bloch-Mascar boudait aussi, n'avait pas voulu venir. Il y avait mon ami Pierre Villon pour le Front National. Pour la CGT, il y avait Saillant. Et pour la Confédération chrétienne, c'était Texier.
Jean Moulin, Max, est en effet l'instigateur de la réunion. Il commence par lire un long message manuscrit du général de Gaulle. C'est ensuite Georges Bidault, dit Bip, un démocrate chrétien à qui le général aurait dit le 26 août 1944, lors du défilé de la libération de Paris, « Redressez-vous, Bidault !» Eh bien, c'est cet homme-là qui présente une motion. Et là est bien l'objectif principal de la réunion, acter l'union des différents mouvements de la résistance intérieure et reconnaître le général de Gaulle comme leur chef. Georges Bidault et Jacques de Bubridel, toujours, se souviennent.
J'étais à la réunion de la rue du Four et ce que souhaitait Max, c'était que ce Conseil national de la résistance servît de point d'appui et de consécration, oui, à de Gaulle.
Bien d'abord, nous avons reconnu de Gaulle comme le seul porte-parole de la résistance française. Pardon, et déclaré que la résistance française le considérait comme son chef. Ça n'a pas été, du reste, sans une discussion.
Ce 27 mai 1943, une première marche est gravie et les résistances deviennent la résistance. Une union sacrée, mais fragile. Pour de Gaulle, ce ralliement est décisif, notamment parce qu'il marginalise le général Giraud, soutenu jusque-là par les alliés américains qui voient en lui le futur leader du pays. C'est donc fort de son union de la résistance que Charles de Gaulle devient le seul chef reconnu de la France libre. Il prend la tête du Comité français de libération nationale, le CFLN, dont le relais en métropole est le CNR. Jean Moulin, lui, a la lourde tâche de présider ce dernier en pleine France, occupé d'en faire converger les différentes tendances, d'où les risques qu'il a pris et sa fin tragique. Au sein de ce CNR, pourtant très disparate, naissent des amitiés qui perdureront des décennies. Mais alors, comment des hommes aux convictions si différentes ont-ils réussi à travailler ensemble ? Pour mieux comprendre cette histoire, il convient de revenir sur les forces en tension et finalement l'histoire de la résistance intérieure avec cette question : comment un général inconnu est-il devenu le chef de la France libre ?
Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire général de Gaulle. Général de Gaulle.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Quand le général lance son appel le 18 juin 1940, au lendemain de la demande d'armistice de Pétain, ils sont très peu à l'avoir entendu. Voilà un militaire quasi anonyme qui refuse la capitulation. Et en plus, il croit en la victoire et demande, par le biais de la radio à Londres, que les Français le rejoignent pour organiser la riposte. En juillet 40, ils sont environ 2000 à répondre à l'appel des jeunes gens de 17 ou 18 ans, ouvriers et paysans pour la plupart. Au même moment, dans la France occupée, à la fin de l'année 1940, les premiers signes de résistance intérieure apparaissent. Quelques groupes se forment de manière spontanée. Les premiers tracts et journaux clandestins circulent. Durant l'année 41, Jean Moulin fait un inventaire de ces petits groupes avant de filer à Londres le 20 octobre de la même année pour rencontrer le général. Là, il lui livre le fruit de son enquête. Les réseaux sont fragiles, isolés, sans moyens ni stratégies élaborées, les communications sont difficiles. Jean Moulin est convaincu qu'il faut établir une résistance métropolitaine active et transpartisane avec une organisation militaire centralisée. De Gaulle se laisse convaincre. Les chefs des différents mouvements de résistance le savent. Leur pouvoir de nuisance sera amoindri s'il ne reste qu'un ensemble de groupuscules disloqués. Il est donc nécessaire de coordonner l'action avec l'appui de Londres. En juin 1941, la rupture du pacte de non-agression germano-soviétique fait basculer les communistes dans l'action clandestine. Le PCF est et restera le seul parti d'importance à combattre l'envahisseur, notamment avec les milices patriotiques. D'ailleurs, les mouvements de résistance sont à une grande majorité animés par des gens gauches, communistes, surtout ou socialistes. Parmi eux, Jean Moulin. Homme du Front populaire, il a 40 ans. Il est le seul préfet évoqué pour ses positions anti-Vichy. Le 2 janvier 1942, il repart donc de Londres dans un petit avion et se fait parachuter dans les Alpilles. Sa mission, rallier les mouvements en général, coordonner leur action et en extraire une organisation rattachée directement à la France libre. Les événements de la guerre font dévier ses objectifs. Loin, très loin de Paris, la victoire soviétique à Stalingrad en février 1943 montre à l'opinion et aux alliés que les nazis ne sont pas invincibles. En mars de la même année, certains commencent donc à croire en la victoire. De Gaulle, lui, veut obtenir le soutien de la résistance intérieure pour prendre la tête de la France libre. Sous son égide, Jean Moulin doit donc unir une constellation de combattants aux appartances politiques différentes. Des communistes, on l'a dit, jusqu'aux hommes de droite qui ne se sont pas compromis dans la collaboration. Mais il tient aussi à ce que les partis politiques fassent partie du Conseil. Dans ce nouvel extrait de Chronique du Temps de l'Ombre, diffusé en août 1976, Claude Bourdet dit Laura et Pascal Copeau dit Salard, deux membres éminents du CNR, expliquent que l'union entre politique et résistants n'a pas été simple.
Ce grand désir de rénovation de la France, de transformation, ce sentiment que la Troisième République n'était pas morte, qu'elle s'était suicidée, car à Vichy, c'était tout de même tous les députés de la Troisième République, moins 80, qui avaient voté les pouvoirs à l'abominable Pétain et à son grotesque régime, n'est-ce pas? Nous pensions que ce suicide devait être sanctionné. Alors, on n'était pas du tout chaud quand Moulin a commencé à venir nous parler de la nécessité de constituer un agglomérat qui comprendrait aussi les partis.
C'est Moulin lui-même qui d'ailleurs a inventé cette idée de CNR et a convaincu de Gaulle. Il voyait là, au fond, je crois, le moyen d'authentifier de Gaulle et de montrer au monde que la France était avec de Gaulle, y compris les gens qui signifiaient quelque chose pour l'étranger et non pas ces quelques aventuriers que nous étions, nous, les résistants.
On savait qu'au fond, le capitalisme mondial, représenté par la puissance américaine et accessoirement par la puissance anglaise, n'avait aucune envie de céder le pouvoir à la résistance. Et donc, il fallait faire ce qu'on pouvait pour aider de Gaulle à Londres et à Alger. Et c'est comme ça qu'on s'est incliné. On s'est incliné, pas de bonne volonté. Mais quand la convocation du CNR a été faite, nous y sommes allés.
Et parce que les mouvements ne doivent pas se faire concurrence, il faut se souder, malgré les différences. C'est ainsi que la première réunion du CNR voit le jour, sous l'impulsion de Jean Moulin, au 48 de la rue du Four, en mai 1943. À peine un mois plus tard, le 21 juin, à Caluire, dans la banlieue de Lyon, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo avec plusieurs responsables de la résistance, dont Raymond Aubrac, le docteur Dubougeon et Daniel Cordier, évoquent les derniers instants de Max dans les actualités françaises de l'ORTF en décembre 1964.
Ils l'ont ramené vers la nuit tombante, avec un pansement autour de la tête et il boitait. Le jeudi matin, il a été emmené à nouveau à l'interrogatoire. Ramené le jeudi soir, très tard, il était porté, soutenu par deux gardiens de la prison. Il a été veillé toute la nuit, ils lui donnaient à boire, et ils l'ont ramené une fois de plus. Le vendredi matin, je ne l'ai jamais revu depuis.
Moulin connaissait tout de la résistance, et pas un seul instant, nous n'avons eu peur, car nous étions certains qu'il mourrait comme il est mort sans rien dire.
Malgré les longues journées de souffrance, Moulin en effet ne révèle rien à ses tortionnaires et le CNR est sauvé. Mais les membres survivants décident d'arrêter les séances plénières. Un bureau permanent est désigné, constitué d'un noyau dur de 5 membres qui représentent chacun plusieurs mouvements. Georges Bidault, Bip, prend la présidence. C'est un proche de Moulin et il jouit de la confiance de tous. Au cours du second semestre de 1943, c'est le début de la contre-offensive. Les positions allemandes reculent. En France, la crédibilité du gouvernement de Vichy s'effrite. Les réfractaires au service du travail obligatoire sont de plus en plus nombreux. Bon nombre convergent dans le maquis. La répression de la Gestapo est toujours plus féroce. Les sabotages s'intensifient. Le CNR, lui, agit comme un gouvernement clandestin. Il doit coordonner l'action, travailler sur un programme d'union, regarder l'horizon, oui, mais toujours avec un œil dans le dos. Le programme du Conseil national de la résistance est donc divisé en deux parties. La première est un plan d'action immédiat, l'organisation d'une insurrection armée contre l'occupant allemand. C'est la raison d'être du CNR au départ. Les comités départementaux de la libération sont donc créés. Il s'agit de faire participer à l'échelon local le maximum de Français à la lutte contre l'ennemi. Mais les résistants ne veulent pas mourir pour rien. S'ils doivent se sacrifier, c'est pour que la société change. Pour ces combattants de l'intérieur, l'insurrection et la libération nationale sont les deux faces d'une même pièce. Il faut donc compléter la première partie d'un programme politique pour les jours meilleurs qui s'annoncent, les fameux jours heureux après la victoire. Ainsi, les deux premières phases du préambule de la version finale du texte sont-elles sans équivoque ? La France doit non seulement se débarrasser de l'occupant, elle doit également harmoniser et pacifier la société.
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.
Pour retrouver cet équilibre moral et social, il faut donc un programme. Celui du CNR se fonde sur la tradition des programmes communs de gouvernement, dont la gauche est coutumière depuis le début de la révolution industrielle jusqu'au Front populaire. Dans le bureau du CNR, les débats internes s'animent. En juillet 1943, un premier texte est proposé. Il s'agit du projet Lafont, soutenu par André Philippe et la SFIO. Il puise largement dans le programme socialiste. Il prône une économie d'État, des nationalisations massives, mais aussi, en réponse à ces carnages successifs qu'on appelle la guerre, l'abandon des souverainetés nationales, avec la création d'une communauté d'États supérieurs appelée Ligue universelle. André Mercier, le représentant du PCF dans le bureau du CNR, est farouchement opposé à cette idée et il reproche également au texte de ne pas aller assez loin sur les questions économiques et sociales, surtout sociales. Joseph Ladiel et Louis Marin, les deux membres les plus à droite du bureau, s'opposent au projet Lafont pour des raisons strictement opposées. Un homme joue alors un rôle crucial dans le groupe, Pierre Villon. Non seulement il propose, mais aussi il use de toute son intelligence et de sa diplomatie pour arriver à un accord. Pour lui, le programme doit être ratifié par tout le monde ou il ne sera pas. À ce titre, le CNR est autant le symbole de l'union de la résistance que de ses contradictions. Pour les membres du Conseil, la vigilance est constante et tout contact direct est proscrit, comme le rappelle Robert Chambéron, alias Champion, dans son livre « Résistant » par Eché Fayard.
Pendant les 4 mois de discussion du programme, des textes s'échangeaient par contacts indirects, moyennant beaucoup de risques. Les policiers vérifiaient toujours si les personnes qu'ils arrêtaient n'avaient pas de courrier dans leurs chaussettes. Il n'y avait jamais de contact direct. Je n'ai jamais vu Villon directement. Je passais toujours par un intermédiaire et mon intermédiaire passait à son tour par son intermédiaire. On convenait d'une heure, d'une date, d'un lieu.
C'est donc dans ce contexte de clandestinité totale que les différentes mesures sont discutées. Le CNR fait vivre la démocratie en plein milieu d'une dictature. En août 1943, la CGT présente son programme d'action et puis en novembre, c'est au tour du Front National de l'époque, de Pierre Villon, de proposer son projet d'une charte de la résistance. Ces différents textes font l'objet de vifs débats entre communistes et socialistes. Les premiers veulent mettre l'accent sur les mesures immédiates à mettre en œuvre pour gagner la guerre, tandis que le second insiste sur les mesures économiques et sociales à prendre dès la libération. Le texte proposé par Pierre Villon et les siens constitue un compromis, finalement, entre ces deux tendances. Il est d'ailleurs très proche du programme définitif. 3 allers-retours sont tout de même nécessaires entre les membres du bureau permanent du CNR. Ils aboutissent au texte final, au terme de 9 mois de courriers clandestins échangés, de compromis et de rédaction. Le texte est adopté à l'unanimité le 15 mars 1944, puis diffusé dans la foulée sous la forme de tracts ainsi que dans des journaux interdits. Les rotatives des imprimeries clandestines tournent à plein régime. C'est un programme visionnaire, courageux, qui entend bien tirer les leçons de la grande crise économique des années 30, qui a plongé le monde dans l'horreur du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Au printemps 44, les Alliés débarquent en Normandie et le 25 août, Paris est libéré. Grâce au rapport de force instauré par le CNR et le général de Gaulle face aux Alliés, ce sont donc des Français issus de la résistance et non des officiers américains, comme le voulait Roosevelt, qui se substituent aux fonctionnaires de Vichy. Et c'est aussi grâce à son rapport de force que de Gaulle est invité à la table des vainqueurs de la guerre.
Paris riait, pleurait de joie devant ces hommes, partis depuis 4 ans, au jour de la défaite, les mains nues, et qui revenaient avec des armes, avec des canons, avec la victoire. Et le lendemain, le général de Gaulle descendait les Champs-Élysées à pied, entouré par ceux qui avaient combattu avec lui hors de France et en France. Ce visage qui nous est familier aujourd'hui, la France le découvrait enfin. Elle ne connaissait encore que sa voix et l'acclamation du peuple libéré, déferlée à travers la ville, cri de reconnaissance et d'espoir. La France rentrait en France.
This land is your land, and this land is my land. California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Quand de Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR. Ce qui s'est passé.
Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde.
La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous.
La fièvre de la libération entraîne une volonté générale de changement politique profond. La majorité des formations est d'ailleurs très favorable à l'application des mesures prônées par le CNR. Le 2 mars 1945, le PCF et les socialistes passent un accord, et même le MRP, d'habitude plus modéré parce que centriste, semble pris d'une fièvre révolutionnaire. Le général, lui, garde ses distances avec le Conseil, mais ne désavoue pas les idées du programme, ce qui revient à dire qu'il y adhère. Avec le général au pouvoir, de nombreux résistants s'engagent ou se réengagent dans la vie politique. Georges Bidault devient ministre des Affaires étrangères et il est remplacé à la tête du CNR par le syndicaliste CGT Louis Saillant. La toute nouvelle 4e République poursuit la politique d'union nationale initiée par les résistants. Mais oui, on retrouve ainsi les trois grandes formations liées à la résistance, communiste, socialiste, démocrate-chrétien, qui se partagent le pouvoir dans différents gouvernements, on appelait ça le tripartisme. La grande majorité des acteurs politiques semblent d'accord. Il faut contraindre le capitalisme et en finir avec la domination des puissances de l'argent. Ainsi, la plupart des dirigeants politiques de l'époque soutiennent-ils le programme des jours heureux ? Il sera donc appliqué. On l'aura compris, les mesures les plus fortes sont économiques et sociales. Deux points que le CNR n'a pas voulu séparer. Chaque ligne de force du programme est ponctuée d'une série de lois ambitieuses.
L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie.
Le 2 décembre 1945, la loi de nationalisation du crédit est adoptée. La Banque de France et quatre grandes banques de dépôt sont concernées. Cette loi doit libérer l'État de l'influence des grands établissements de crédit et protéger les épargnants. Elle montre aussi à quel point les gens du CNR ont compris que ce sont les dérives du capitalisme sauvage qui ont mené à la crise économique, laquelle a mené à la guerre.
Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques.
Fin 44, une grande politique de nationalisation est lancée. D'abord les houillères du Nord-Pas-de-Calais, puis les usines Renault et surtout le gaz et l'électricité avec la création d'EDF, et puis la nationalisation des charbonnages de France, ainsi que le contrôle de l'État sur la marine marchande.
Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajustement important des salaires, et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine.
Par la loi du 21 février 1946, la semaine de 40 heures est rétablie avec paiement des heures supplémentaires, mesure phare du Front populaire que le régime de Vichy avait aboli pour repasser à la semaine de 60 heures. Dans la foulée, en 1950, le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, est créé.
La reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale.
Le régime de Vichy avait interdit les syndicats, ils sont donc rétablis dès la libération. Nombre de syndicalistes se sont engagés dans la résistance. Ils deviennent très puissants. La CGT compte 5,5 millions d'adhérents dès 1946.
Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État.
C'est la mesure phare du CNR, la plus emblématique, l'extension à tous d'un régime d'assurance sociale. Le projet est porté principalement par le ministre communiste Ambroise Croizat. Le directeur des assurances sociales s'appelle Pierre Larocque et c'est lui qui met en œuvre la sécurité sociale en octobre 1945, une loi qui inclut également la retraite des personnes âgées sur la base de la répartition. C'est un vent nouveau qui souffle sur un pays qui redresse la tête.
Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses, primes d'allaitement doublées.
Toutes les réformes qui ont été appliquées entre 45 et 47, les nationalisations, le plan, la sécurité sociale, enfin pour ne mentionner que les plus importantes, c'était la résultante immédiate du programme de résistance. De Gaulle, il l'a accepté.
Comme le dit Jean-Louis Crémieux-Briclac dans cet extrait du film Les Jours Heureux, les grandes réformes de l'immédiate après-guerre sont effectivement et directement inspirées par le programme du CNR. Cependant, toutes les mesures du Conseil ne sont pas suivies. Par exemple, le retrait des colonies et le projet de réforme de l'éducation nationale passent aux oubliettes. Pendant 2 ans, des lois importantes sont votées et l'unité est instaurée dans un appartement de Saint-Germain, un jour de mai 1943. Tiens, bon, oui, et jusqu'en 1947. Cette année-là, le vent de la guerre froide arrive et les clivages s'accentuent entre les partisans d'un modèle libéral et ceux d'un modèle étatiste. Et puis c'est la rupture. Les ministres communistes quittent le gouvernement. Malgré tout, l'économie est florissante et pendant une trentaine d'années, l'état social instauré par le programme du CNR tient bon. À Paris, dans la nuit glaciale du 19 décembre 1964, les restes de Jean Moulin sont conduits au Panthéon. Sur la façade, on peut lire « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Pour Jean Moulin, c'était bien le moins qu'on puisse dire et faire. La voix chevrotante de Malraux et la cérémonie solennelle marquent la gratitude de l'État pour cet homme qui s'est tué. Celui qu'on appelait Max, fondateur du CNR, resté dans l'ombre toute sa vie et obsédé par l'union des mouvements de la résistance. Et alors qu'il entre aussi dans les livres d'histoire et que son nom est donné à de nombreuses écoles, dans les années qui suivent, pas à pas, la société change. Dans la décennie 70, les crises pétrolières plongent le monde dans une nouvelle crise économique. Puis, dans les années 80, le capitalisme se transforme, il se financiarise. Des politiques néolibérales grignotent petit à petit ce qui avait été mis en place à la libération. Et en 1986, on assiste à une première grande série de privatisations.
Première entreprise privatisée, Saint-Gobain. Les grandes sociétés nationalisées à la libération devraient suivre ainsi qu'une ou plusieurs chaînes de télévision.
Édouard Balladur l'a annoncé, la vieille dame nationalisée en 1945 sera privatisée. Parce que le gouvernement veut, dit-il, changer les règles du jeu de notre économie.
Il s'agit d'abord des 3 banques nationalisées à la Libération. La Société Générale, le Crédit Lyonnais et la Banque Nationale de Paris. Ensuite, des 3 compagnies d'assurance nationalisées en 1946.
Le ministre de l'économie n'est pas opposé à l'ouverture du capital de France Télécom.
Le gouvernement actuel ne revient donc pas sur la décision du gouvernement Juppé et sur les engagements pris en ce sens à Bruxelles.
Ainsi, dans cette décennie, l'idéologie néolibérale colonise l'ensemble de la société. Petit à petit, on stigmatise l'État-providence et ses charges sociales coûteuses. Les milieux intellectuels et politiques, mais aussi le grand public, se laissent embarquer dans cette nouvelle doctrine. En 1989, les plus grandes compagnies d'assurance sont privatisées par le gouvernement Chirac avant que la loi Evin officialise l'entrée d'assurance privée dans la complémentaire maladie. À pas feutré, dans le silence de l'hémicycle, le grand pacte social français impulsé par le CNR est fragilisé. Et au fil des ans, les gouvernements perdent leur pouvoir au profit des marchés financiers et des grands conglomérats. Dans les années 2000, la société française reste consciente et fière de son modèle social, mais empêtrée dans le jeu de la libre concurrence et de la mondialisation, les inégalités se creusent, on rogne sur les budgets publics. Les digues mises en place par le CNR cèdent peu à peu. En 2010, finalement, c'est un petit livre paru en catimini dans une modeste maison d'édition montpelliéraine qui fait connaître à nouveau le programme du CNR. Indignez-vous de Stéphane Hessel. L'auteur, un ancien résistant déporté à Buchenwald, dresse dans son pamphlet des parallèles entre les idées défendues par le CNR et le malaise d'une société française qui a perdu ses repères républicains. 3 millions d'exemplaires sont vendus et le 30 novembre 2014, une page se tourne. Robert Chambeyron, souvenez-vous, champion, ultime survivant du CNR, meurt à l'âge de 99 ans. Une Une chose est certaine, de nombreux résistants ont risqué, voire perdu leur vie pour nous transmettre les 2870 mots du programme du CNR. Ils se faisaient appeler Max, Colbert, Argonne, Morlaix, Bip, ou encore Champion. Et même si l'histoire de leur union reste méconnue, le programme des jours heureux a permis une application en acte de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, à la fois idéal et réalité. Bien qu'écorné par la crise économique, ce triptyque reste une balise, que dis-je, un phare.
Aujourd'hui n'existe plus, vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus, aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Dès le début, la vie a pris et la lumière donnait à plein. C'était brutal et froid aussi, la peau bleuissait dans le bain. Quand c'est parti à toute allure, certains ont réduit la voilure, d'autres ne savaient pas freiner, et tant d'arbres s'en sont mêlés. Aujourd'hui n'existe plus, vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus, aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. On avait des histoires en nombre, on n'avait qu'à se décider pour en prendre une et l'adopter, et la faire entrer dans le monde. Matins pâles et bariolés se côtoyaient perçant la brume, vacant de quart en quart de lune, rien pouvait nous rassasier. Aujourd'hui n'existe plus, vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus, aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'œuvre sociale du Conseil national de la Résistance, dont nous allons parler avec vous, Antoine Bozio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut des politiques publiques, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur associé à PSE École d'économie de Paris. Vous avez écrit en 2013, avec Thomas Piketty, le livre intitulé « Pour un nouveau système de retraite ». Il est intéressant de savoir quel regard pose un économiste d'aujourd'hui sur l'œuvre sociale du CNR. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question.
Alors, l'œuvre sociale du CNR, c'est-à-dire ce programme de sécurité sociale, c'était quelque chose, une vision très importante et fondatrice dans la compréhension de notre protection sociale, la mise en place finalement d'un État-providence complet dans l'après-guerre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le mot sécurité sociale, c'était quoi ? C'était l'idée de dire qu'il fallait pas simplement garantir la sécurité des Français, qui était la sécurité au sens vraiment vis-à-vis de l'opposant, l'occupant nazi de l'époque, une sécurité physique. Mais c'est que les sources qui étaient du problème finalement moral et politique français de l'avant-guerre devaient être garanties par une sécurité sociale face aux risques de maladie, aux risques d'invalidité et aux risques de vieillesse. Et donc la vision finalement portée par le CNR était l'unité du pays, et donc l'unité de la protection sociale qui devait être systématique et complète.
C'était un héritage aussi, parce que on peut penser aussi à l'œuvre de la Troisième République sur ce terrain-là, les congés payés de 36. Il y a une filiation.
Il y a une certaine filiation, mais en même temps, c'était vraiment un renouveau au sens où les différentes tentatives qui avaient été mises en place sous la Troisième République avaient été en grande partie des échecs. Hein, et les échecs sur les différentes mises en place de systèmes, par exemple, de retraite qui avaient été très mal perçus, les retraites ouvrières et paysannes, on disait c'est des retraites pour les morts, ou l'impression que finalement, on avait Ça ne donnait pas de droit nouveau. Le parallèle que je trouve aussi très intéressant, c'est la façon dont une partie de ces résistants, en allant à Londres, par exemple Pierre Larocque, qui sera le père de la sécurité sociale, c'est-à-dire le haut fonctionnaire qui a mis en place une grande partie des mesures du Conseil national de la résistance sur la protection sociale, en allant à Londres, il découvre aussi les réflexions des Britanniques. Le plan Beveridge, en 1942. Les Britanniques, en même temps, eux aussi, sont en train de penser, dire, dans l'après-guerre, il va falloir construire un système de protection sociale. Et dans le plan Beveridge, dont on sait qu'il a beaucoup influencé, finalement, y compris les résistants et Pierre Larocque, dans la mise en place du nouveau système en France, c'était de dire, il faut un système universel. Il faut un système qui couvre tous les citoyens du pays. Il faut un système qui couvre l'ensemble des risques. Et c'est ça qui était au départ, le fondement, finalement, dans le programme du CNR sur une sécurité sociale qui couvre l'ensemble des risques. William Beveridge disait de la naissance à la mort, c'est-à-dire l'ensemble des risques sociaux qui pouvaient...
Pendant toute la vie.
Toute la vie.
Est-ce qu'on peut dire que le programme du CNR finalement était révolutionnaire, puisqu'on reconstruit tout, ou simplement réformiste, ou social-démocrate, ou socialiste?
Sa particularité, à mon sens, ce qui a été en fait rarement le cas et qui était propre à cette situation pendant la résistance de volonté d'unité, c'est-à-dire d'arriver à se mettre d'accord entre des différentes sensibilités, communistes, socialistes, des sensibilités plutôt plus centristes, démocrates chrétiennes, ou plus à droite, plus libérales, qui quand même ont réussi, parce que l'unité du pays leur paraissait primordiale, à simplement se mettre d'accord sur un consensus qui n'était pas partisan vis-à-vis de l'autre groupe d'arriver, et donc à prendre les différentes composantes qui venaient de sources, qui ont été d'inspiration socialiste en partie, de modèles portés par exemple par Ambroise Croizat, de communiste, et y compris des choses de la démocratie chrétienne.
C'est-à-dire que c'est l'acte de résistance qui transcendait finalement tout cela.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est pas commun et plutôt rare dans façon dont on conçoit en général la construction de politiques publiques. Et là, c'était vraiment l'idée d'arriver à faire un consensus national sur ces politiques.
Alors, on se demande souvent, et vous n'échapperez pas à la question, bien sûr, pourquoi il est si difficile de réformer le système de retraite. Mais d'abord, si je puis me permettre, une question, faut-il le réformer? Et pourquoi? On va partir du livre blanc de 1991, quand Michel Rocard était Premier ministre. Le livre blanc ou le constat?
Aujourd'hui, les retraités gagnent en moyenne 5000 francs par mois. Pour le gouvernement, ça veut dire que le système par répartition a fait ses preuves. Mais ce système où les actifs paient pour les retraités a une limite. Démographie et chômage obligent, en 2010, il y aura moins de 2 cotisants pour un retraité, dans le meilleur des cas.
Alors, cette alerte, c'est une sorte d'alerte, a été plus ou moins bien accueillie. Certains disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces cassandres? D'autres disaient, c'est bien, si on veut pérenniser le système, il faut le réformer. Est-ce que Michel Rocard a eu tort d'avoir raison trop tôt?
Alors, ce qui est frappant, peut-être, c'est que, peut-être pour poursuivre le fil depuis le CNR et depuis 1945, c'est que, entre 1945 et la fin des années 70, la question d'un problème de financement des retraites...
Se pose pas. On est dans les 30 glorieuses dans la croissance.
On se pose non seulement la croissance, mais plus que ça sur la démographie. Il n'y a pas de croissance de l'espérance de vie à l'âge après 60 ans. L'espérance de vie croît, mais parce que la mortalité infantile baisse, l'espérance de vie avant 60 ans, et augmente fortement. Mais par contre, l'espérance de vie à 60 ans, complètement plate, jusqu'à arriver au début, à la fin des années 70, début des années 80. Et là, on s'en rend pas tout de suite compte que maintenant, nos gains d'espérance de vie vont plus avoir lieu tant aux âges jeunes, mais ils vont avoir lieu essentiellement aux âges après 60 ans. Et donc,
ça crée des besoins.
Ça crée des besoins parce que l'espérance de vie en retraite commence à augmenter. Et donc, Michel Rocard, on a mis un moment avant de s'en rendre compte. On a commencé à se dire que c'était pas tout à fait vrai, ça devait être temporaire. On n'a pas pris conscience tout de suite du fait que, en fait, l'augmentation de l'espérance de vie allait changer l'équilibre fondamental de nos systèmes de retraite. Et le livre blanc de Michel Rocard, finalement, arrive pour dire, prenons conscience du fait que si nous voulons pérenniser, sauvegarder finalement ce modèle, un système en répartition, il faut le réformer.
Alors, s'en suivent des réformes successives, précisément 1993, 2003, 2008 et 2006, mais surtout, le projet avorté de 1995. Souvenez-vous, toute la France est dans la rue et Alain Juppé, dont Premier ministre, fait une déclaration parmi de nombreuses déclarations, celle qu'on va entendre. En fait, il s'apprête à déposer les armes.
Il faut en sortir. Il faut en sortir d'urgence. Et pour ma part, je souhaite de tout cœur que les choses s'apaisent. Certains formulent des exigences. Ils disent le préalable à toute discussion, c'est que le gouvernement retire son plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale. Eh bien, je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur, et je dirais même une faute, que de le faire. Cela irait contre l'intérêt de chacune et de chacun d'entre vous, et contre l'intérêt de la France.
24 ans après, qu'est-ce que cette déclaration vous inspire, Antoine Bosio?
Je suis trop jeune pour me souvenir de visu finalement des déclarations d'Alain Juppé à l'époque et des grandes grèves, même si j'en ai un souvenir quand même de jeune adolescent. Ce qui me frappe, c'est que d'une certaine façon, la France à l'époque n'avait pas encore vraiment pris conscience de qu'est-ce qui devait être fait pour arriver à pérenniser son système.
Ouais.
Et d'une certaine façon, Alain Juppé, avec un plan qui est très direct, qui est très presque, qui apparaît comme très brutal vis-à-vis de ce que percevaient la plupart des salariés, la plupart des Français comme la capacité finalement de nos systèmes à être sauvegardés, ne se rendent pas compte que du coup, si on ne faisait pas une réforme à ce moment-là, il faudrait en faire une autre. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu d'autres réformes qui ont été plus moins visibles sur l'évolution, la désindexation des droits et qui finalement ont été mises en place, qui ont eu des impacts sur l'équilibre du système de retraite, mais sans forcément que les Français s'en rendent compte immédiatement.
Peut-être parce que après 91, après 95, on a cessé de se poser la question de savoir s'il fallait vraiment réformer les retraites. Peut-être qu'à un moment donné, cette idée selon laquelle il fallait les réformer pour pérenniser le système est entrée dans les esprits.
Alors, on a mis beaucoup de temps simplement à se mettre d'accord sur le fait que quelle était la source du problème. C'est-à-dire que on a pensé pendant très longtemps que la source du problème sur l'équilibre des retraites, ça pouvait être qu'il y avait pas assez d'enfants, ou la croissance était trop faible. Et on a mis du temps à simplement réaliser, et ça a été une grande partie du travail qui a été fait finalement plus tard, après partir avec le conseil d'orientation des retraites, où les partenaires sociaux ont été mis autour de la table pour essayer de voir les hypothèses démographiques, de comprendre quelle était l'ampleur et quelles étaient les options. Et d'une certaine façon, le rapport de Michel Rocard apparaissait trop tôt dans un pays qui n'avait pas encore pris conscience finalement des conséquences possibles et des options possibles pour pérenniser le système.
Donc il a bien eu tort d'avoir raison trop tôt.
Peut-être.
Bon. Vous êtes jeune, vous l'avez rappelé tout à l'heure, moi je suis un ancien jeune, et donc j'ai deux enfants d'une petite trentaine d'années qui me disent souvent, on met de côté parce que nous on n'aura plus de retraite. Et je leur réponds, mais s'il y a des réformes bien menées, vous aurez une retraite dans 30 ans. Est-ce que j'ai raison de leur dire ça?
Vous avez tout à fait raison, et c'est quelque chose que j'essaye de répéter très souvent. C'est-à-dire que on entend souvent, et les jeunes ou des moins jeunes, on a l'impression que le fait qu'on a fait plusieurs réformes, on a fait des réformes successives, ça donne l'impression finalement qu'à un moment il y aura plus d'argent dans les caisses, et que quand les plus jeunes arriveront enfin à l'âge de la retraite, il n'y en aura plus.
Ouais.
Alors qu'en réalité, un système qui fonctionne en répartition, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que sa soutenabilité ne puisse pas être assurée. La seule chose à faire, c'est faire en sorte qu'on ne puisse pas garantir, on doit garantir des droits qui doivent être en relation avec l'espérance de vie en retraite, c'est-à-dire combien de temps on va toucher notre retraite. Et si nous, plus jeunes générations, allons passer plus de temps en retraite, eh ben, il faut simplement qu'on le prenne en compte pour pouvoir garder l'équilibre. Mais c'est quelque chose qui, en réalité, on va non seulement pouvoir avoir des retraites, mais elles seront plus longues que nos générations précédentes. Elles seront d'un niveau plus élevé que nos générations précédentes parce que le mécanisme de répartition nous permet de faire transmettre finalement la croissance des salaires aux générations actuellement retraitées et elles-mêmes qui vont bénéficier des nouvelles générations. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible grâce au système en répartition. Pourvu qu'on n'en fasse pas des promesses qui ne soient pas tenables et que le jour où on arrive finalement avec des déficits qu'on soit incapable d'assumer sans finalement revenir sur les promesses qu'on avait faites.
Alors, on arrive à la réforme de messieurs Macron, monsieur Philippe et son gouvernement. Est-ce que ce projet de réforme répond à ce besoin d'avoir toujours des retraites et même des retraites meilleures qu'aujourd'hui? Est-ce que ça y répond?
Alors,
là, c'est vraiment le regard critique de l'économiste sur cette réforme des retraites.
Alors, cette réforme des retraites, elle est particulièrement complexe à expliquer pour le gouvernement, mais y compris pour les universitaires, dans toute sa complexité. Pourquoi ? Parce qu'elle fait, elle veut faire plusieurs choses à la fois.
Oui.
La première chose qu'elle souhaite faire, c'est d'une certaine façon, et c'est là peut-être le parallèle avec la discussion sur le programme du CNR, c'est que il y avait quelque chose qui était dans le programme du CNR qui n'a pas réussi à être mis en place à la Libération, c'était d'avoir un régime universel.
Les
mêmes droits pour tous. D'arriver à faire en sorte que l'ensemble du pays ait cette couverture complète. Et ça n'a pas eu lieu en 1945. Pourquoi ? Parce que il y a eu des réactions, on va dire, plus d'intérêt particulier, où ceux qui avaient déjà des caisses de retraite se sont dit « je préfère garder ma caisse et être plus autonome ». Alors, il y a eu les régimes spéciaux, les fonctionnaires, les professions libérales, les agriculteurs. Ouais. Chacun se sont dit « je ne veux pas rentrer dans le régime général ».
Parce que je vais y perdre.
Parce que je vais y perdre, parce que j'ai des droits, et puis parce que finalement, le contrôle que je peux avoir plus directement avec mon groupe professionnel me donne plus de garanties sur vraiment ces droits. J'ai peur de me faire avoir dans quelque chose de plus universel. Donc c'est l'explication principale pour laquelle nous avons un régime en répartition publique et obligatoire, mais de multiples régimes et de multiples règles. Et ça a eu tendance quand même à alimenter les soupçons que les uns sont plus privilégiés que les autres, que finalement la solidarité nationale, elle s'applique à géométrie variable.
Qu'on n'est pas dans l'égalité des chances, là, des trois
éléments. Et voilà, et d'une certaine façon, ce qui fait l'unité du pays et son triptyque, c'était le fait d'arriver à avoir quand même cette couverture, les mêmes droits. Alors, dans le projet qui est actuel, il y a arrivé à dire on veut avoir les mêmes droits pour tous.
Régime universel, parfois.
Régime
c'est ça.
Universel. Arriver à faire en sorte que les dispositifs de solidarité soient aussi les mêmes pour tous, alors qu'aujourd'hui, on a des règles différentes entre différents régimes. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui est assez fort et important au vu justement de l'histoire qu'on a pu voir sur la difficulté d'arriver à ce système. Mais il ne veut pas faire que ça.
Non.
C'est là où vient la complexité. C'est que par ailleurs, il souhaite aussi faire en sorte que le système, dans le cadre d'une augmentation d'espérance de vie, parviennent à l'équilibre et disent, voilà, quels sont les moyens de garantir sa pérennité, mais sans forcément augmenter finalement les financements mis dans le système. Donc ça, c'est là où se retrouve l'attention propre due à cette réforme, c'est qu'à la fois elle a une volonté forte d'arriver à un système universel, les mêmes règles pour tous, qui correspond finalement à un objectif assez profond, assez accepté par de nombreux, mais en même temps visé à l'équilibre du système.
Toute la complexité est là. Bon courage à tous, en tout cas. Merci infiniment pour tous ces éclairages reposés d'économistes, parce que effectivement, c'est pas toujours facile à comprendre, et on continuera ce travail de pédagogie autour des retraites. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'œuvre du CNR, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour tout renseignement complémentaire à notre émission. Et merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.